Brodsky.
On fait peu souvent de signatures de poésie, mais là, ça nous a semblé essentiel d'en faire une à ce sujet. Donc,
voilà. Approchez-vous là, parce que, genre, vous voyez, on est comme qui dirait... Ouais, là, il y a des... Nous, si on a besoin de s'asseoir, on s'assoit par terre, sur un tabouret, donc sans blague...
On vous verra pas, alors, si vous êtes pas...
Si vous êtes venu pour Brodsky.
Oui, c'est pas la peine de nous voir, nous.
Alors, ben, on entend mieux quand on voit les gens. Hein.
Ça, c'est sûr.
Et en tout cas, visiblement, vous aviez pas mal d'anecdotes ou de choses à nous dire sur la traduction. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, je vous cède la parole, voilà. Sentez-vous libre de parler de tout ça. Merci d'avance, en tout cas, de votre présence.
Merci. Attends, merci. D'abord, je fais une chose, je me mets en mode avion, parce que sinon...
Ça va comme dans les théâtres et les cinémas.
Oui, parce que sinon, si ça... Voilà. Donc, en fait, je me permets de commencer, parce que pour moi, cette soirée-là, elle est tout à fait particulière. C'est non seulement on se retrouve autour d'un livre particulier, on en parlera, mais Peter France... Et moi, on ne s'était pas revus depuis, disons, 25 ans. Et quand on s'était connus, c'était autour d'un ami commun que nous avions, un poète qui s'appelle Gennady Haïgui, qui haïssait Brodsky. Et que Brodsky haïssait. Et Peter est la seule personne qui était amie avec les deux. Et donc, le fait que David Massard, qui a publié ce livre dans cette maison d'édition qui s'appelle Les Doigts dans la prose, ce qui est comment il faut faire, c'est David qui a porté ce projet pendant des années. David ne connaissait pas le texte russe, vous ne lisez pas le russe. Et en fait, moi j'avais publié une traduction sans connaître celle de Peter en 1987 quand Brodsky a eu le prix Nobel dans une revue qui s'appelle La Lettre Internationale. Et depuis ce temps-là, cette revue a été elle s'est perdue. Et moi je savais que cette traduction existait, mais je pense que j'étais le seul. Peut-être ma maman le savait aussi, parce que ma maman sait tout ce que je fais. Et donc, voilà. Et David a mentionné le fait qu'il connaissait cette traduction sur son blog, ou je ne sais plus quoi. Et donc, on s'est écrit. Et David a obtenu les droits pour faire le livre, et pour faire un livre que j'appelle quadrilingue. C'est-à-dire le texte russe, ma traduction, la traduction, l'autre traduction française qui était publiée chez Gallimard de Claude Ernoux, qui est faite selon des principes radicalement différents, et la traduction anglaise de Peter France. Et donc c'est un livre absolument unique qui présente réellement quatre textes, quatre langues, trois langues, mais quatre langues poétiques. Et quand moi j'ai traduit les sonnets de Brodsky, je ne connaissais pas Peter. Donc voilà.
Bon, je vais dire un tout petit peu sur les commencements de cette affaire-là. Pour moi, c'était la même année, 1987. Et en fait, c'était non seulement l'année du prix Nobel de Brodsky, c'était le quatrième centenaire de la mort de Marie Stuart. J'habite Édimbourg. Derrière la montagne, il y a une montagne en face de la maison. Derrière la montagne se trouve le palais de Holyrood, où la reine Marie Stuart a vécu avant de rencontrer son sort. Et j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée. Enfin, ce qui s'est passé aussi, c'est que pour le centenaire, on a passé au cinéma à Édimbourg le film allemand « Das Herz der Königin », « Le cœur de la reine », qui a un peu donné le déclic à Brodsky pour écrire ses sonnets. Ses sonnets commencent après une vision de ce film et une rencontre avec Marie Stuart au jardin du Luxembourg, de la statue. Donc je connaissais bien la statue, j'ai venu de voir le film. J'étais entouré, si vous voulez, de Marie Stuart et je lisais Brodsky. Donc j'ai été poussé, si on veut, vers ce travail de traduction, qui est un travail pour moi très difficile. Et comme disait André, j'étais en plein dans la traduction de Gennady Haigi, qui est un peu le anti-Brodsky. Donc c'était assez difficile d'aller de l'un à l'autre. J'aime les deux. Je veux dire que s'il fallait choisir, je choisirais tout de même Haigi, mais Brodsky est un grand. Et c'est une belle. Donc j'ai essayé de traduire ces 20 sonnets. Et ce qui s'est passé, je devais en même temps faire un petit papier pour un livre collectif sur Brodsky. Ce que j'ai fait, et ma traduction est une sorte d'appendice, annexe à cet article. Et la personne qui l'a reçu était amie de Brodsky, a dit bah, « Tiens, je vais l'envoyer à Joseph. » Donc, la traduction est envoyée à Brodsky, qui la reçoit à Londres, il était à Londres à ce moment-là. Et quelques jours après, je reçois une lettre de lui, qui commence par des compliments. J'ai été absolument ravi, impressionné, etc. Votre belle traduction, etc. etc. Et puis vient l'autre face de la lune, si on veut, sentence. Il me semble que vous souffrez d'une arythmie chronique. C'est vrai que j'ai une arythmie du cœur, c'est peut-être pas ça qu'il pensait. Et puis toute une série de remarques intéressantes qu'il avait. Et j'ai été tellement inspiré par votre traduction, dit-il, que je l'ai refaite. et en fait, je peux vous montrer ça, si ça vous intéresse, mais j'ai ici les épreuves telles qu'elles ont été travaillées par Brodsky, et on voit très bien comment il a travaillé sur ma traduction. Et ça, c'est le commencement. Là, ça passe encore. Plus tard, c'est beaucoup plus clair. Il y a des sonnets qui sont entièrement de lui. C'est la traduction anglaise est entièrement de lui. Et j'ai réagi, disant que tout de même, vous ne comprenez pas peut-être qu'on a peut-être d'autres habitudes dans la poésie anglaise. Nos idées de rythme ne sont pas exactement les mêmes qu'en Russie, etc. Et il a été très gentil avec tout cela. On a fait quelque chose ensemble, qui est un peu de lui, un peu beaucoup de lui, mais de moi aussi, un peu de moi aussi. Et il ensuite m'a autorisé à publier ma propre traduction, sans ses corrections, séparément, ce que j'ai fait. Donc quelqu'un qui s'y intéresse peut lire différentes versions de ces traductions. J'ai même ici une feuille que David a préparée. Ici, vous pourrez peut-être passer. Ce serait tout un séminaire si je devais expliquer tout ça. Mais ça vous montre un peu comment on a travaillé ensemble. Il y a les différentes versions anglaises. Et ce que je dirais simplement pour terminer, parce que je crois qu'on va lire quelque chose, c'est que j'ai retenu de là une grande admiration pour Brodsky, non seulement en tant que poète, que j'avais déjà, mais en tant que traducteur. Il a été très malmené par les critiques de langue anglaise pour ses autres traductions, qui sont considérées comme bizarres, faibles, etc. Alors, ce que j'ai appris de lui, ce qui l'intéressait, ce que je n'avais pas fait, c'était la reproduction des rimes. André n'a pas besoin de. Il semble rimer de façon tellement merveilleuse. Moi, je n'arrive pas à rimer aussi bien qu'André. Et ce que j'ai appris, peut-être en lisant les collections de Brodsky, c'est que ce que je crois fermement maintenant, ce qu'il faut au traducteur, c'est l'audace. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, quoi. Brodsky l'avait en partie parce qu'il ne connaissait pas aussi bien que moi l'anglais. Ça le libérait d'une certaine manière. Et il pouvait donc jouer avec la langue anglaise d'une manière qui, pour moi, était difficile. J'aurais dû surmonter ma timidité. Je ne l'ai pas fait sur le moment. Et maintenant, je trouve que j'aurais pu mieux traduire que ce que j'ai fait. Et si j'avais à refaire, j'aurais d'autres traductions. Mais maintenant, je ne fais pas. Enfin, c'est long. Il y a près de 30 ans de ça. Et je n'ai pas envie de retourner.
Mais Peter, ce que vous dites. Pour moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est l'histoire de l'arythmie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pas comment est-ce que Brodsky pense? Il pense d'abord par le maître. En France, personne ne fait comme ça. En France, comment vous dire? La poésie moderne, d'abord, elle existe en vers libre. Quand on rime, c'est généralement ironique ou comique ou parodique. La rime a perdu son importance. Pour Brodsky, ça fait partie du monde poétique normal. Mais il y a plus que ça. Il a une oreille particulière qui fait que dans tout ce qu'il entend, c'est ta-ta, le sonnet de Marie Stuart, c'est un sonnet en ce qu'on appelle un pentamètre iambique. 5 gambes. Ta 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 ta. Et ça, c'est le début. C'est par ça que ça commence. À partir de ce moment-là, Brodsky veut absolument reproduire ça dans la langue dans laquelle le texte est traduit. Parce que sinon, il ne reconnaît pas sa langue. De la même façon, Malina Tsvetaev, quand elle traduisait en français, avait une façon tout à fait particulière de manier la langue française. Et très souvent, les Français disent « mais c'est pas du français ». Bon, elle fait de temps en temps des fautes de grammaire, mais en gros, c'est absolument du français, sauf que c'est du français entendu en russe. Et moi, ma première langue, c'est le russe. Et donc, mon oreille... elle est russe. Moi, j'ai d'abord entendu maman et ma grand-mère qui me disaient Eugène Onéguine. Ta 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 ta. Je pense que je l'ai entendu quand j'étais pas né. Et je suis né avec ça. Et c'est ça qui compte pour moi. Après, se greffe dessus la forme du sonnet. Mais après seulement. Pas le sonnet français. 4, strophe de 4, strophe de 4, strophe de 3, strophe de 3. Non. Le sonnet anglais. 14 lignes à la suite. Sauf que ce n'est pas le sonnet anglais, parce que chaque sonnet rime d'une façon différente. Mmh. Et il y a un jeu sur la forme vieille avec une langue nouvelle. Sur un thème. Pseudo-parodique. Marie Stuart écrivait des sonnets aussi. Et le troisième sonnet, si on pouvait le lire, ça serait génial, parce que ça parle de ça. Ça parle de tous les niveaux de parodie tragique de l'histoire. L'histoire de Brodsky, elle est très simple. Il se retrouve, viré d'ours, et tout à coup se découvrant comme un des plus grands poètes de l'époque, et se retrouve au Luxembourg. Jamais un citoyen soviétique normal n'aurait pu penser se retrouver au Luxembourg dans des circonstances, de tourisme. Et cette espèce de collapsus entre le fait de se retrouver au Luxembourg, regarder la statue de Marie Stuart, se souvenir qu'il avait vu un film quand il était petit, en 47-48, sur Marie Stuart, et que ce film était un film de trophée, ce qu'on appelait les troupes soviétiques, avait... ramener d'Urs, de d'Allemagne, tout ce qu'ils pouvaient ramener, en gros de pillage, quoi. Mais comme les Allemands avaient pillé beaucoup plus l'Union soviétique. Donc voilà, tout ça ensemble. Et c'est un sonnet, et c'est un cycle de sonnets écrit, donc il s'est écrit en 74, il a 35 ans, 34 ans. C'est-à-dire, c'est l'âge de Dante. C'est le milieu de la vie. qu'est-ce que tu fais au milieu de ta vie face à la statue de Marie Stuart? Voilà. Et c'est à la fois tragique et comique. Je vous le lis en russe. Hein?
C'est ça.
Земной свой путь, пройдя до середины, я, заявившись в люксембургский сад, смотрю на затвердевшие седины мыслителей, письменников, и взад вперед гуляют дамы, господины, жандарм синеет в зелени усад, фонтан мурлычет, дети голосят, и обратиться не к кому соедино. А ты, Мари, не покладая рук, стоишь в гирлянде каменных подруг французских королев во время она, безмолвно, воробьем с воробьем на голове. Сад выглядит, как помесь пантеона со знаменитой завтрак на траве.
I, who have traveled half my earthly road, make my appearance in the Luxembourg and contemplate the petrified grey curls of thinkers and of scribblers. Gents and broads are strolling to and fro. A whiskered blue copper glistens from the thicket. The fountain purrs, the children laugh, and not a soul to greet with bugger off. And you, untiring Mary, stand and stand in the stone garland of your girlfriends, stunned French queens of once upon has been, in silence, with a sparrow in your hair. You'd think the garden was a cross between the Pantheon and Déjeuner-sur-l'Herbe.
Je lis en français, puis on... Non, qu'est-ce qu'il a demandé de changer?
Ah, ben là, il faudrait...
Vous avez le texte
là. Ce qu'il a d'abord changé les ladies and gents, qui sont devenus gents and broads. Donc il y a ce côté américain. Ce qu'il a bizarrement changé, étant donné ce que vous venez de dire, il a transformé un certain nombre de pentamètres en tétramètres. Donc il n'a pas respecté son propre rythme. Et ce que je viens de dire, là, il y avait des tétramètres au milieu des pentamètres. Je ne sais pas si ça s'entend, mais... ce qu'il a voulu, bien sûr, ce sont des rimes, et quelquefois je vais commencer, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ici comme rime?
Ah ben ouais.
Oui, j'avais écrit whiskered et bushes.
Ça rime pas.
Il a dit whiskered et thicket, qui est presque une rime. Moi j'avais senti whiskered et bushes comme allant ensemble, mais évidemment ce n'est pas une rime. Etc. Qu'est-ce qu'il a changé encore? Il n'a pas aimé Once Upon a Time, qui est normal en anglais. Il a changé en Once Upon Has Been, qui ne se dit pas en anglais, mais pourquoi pas, après tout. Et ça rime. Et c'est ça qu'il a voulu faire. Très souvent, j'ai l'impression que lorsqu'il parle, il dit que ce qui compte dans la poésie, c'est la forme. Il faut traduire la forme avant tout, mais ce qui comptait vraiment, c'était la rime.
Aussi les rimes intérieures, parce que c'est « in » et « been ». On entend des deux dans des sons, comme dans le russe,
oui,
bien sûr,
oui.
Je me semble.
Oui.
C'est-à-dire, Brodsky, n'était pas seul, mais Brodsky avait une mémoire phénoménale. Il pouvait raconter, il pouvait dire de la poésie pendant des jours. Et moi, comment j'ai connu Brodsky? J'ai connu Brodsky par mon maître, qui était Ephim Etkin. Et Ephim Etkin était celui qui a... Enfin, un ami de Brodsky, qui a travaillé avec Brodsky, etc. Beaucoup plus âgé que lui. Et Etkin connaissait, mais sans blague, aussi des jours par cœur. Et comment tu apprends par cœur? Sur la rime. Pour une raison très simple. C'est que la plupart de la poésie du XXe siècle qui valait quelque chose en urs était interdite. Et que tu n'avais pas de manuscrit. Tu avais pendant deux jours, trois jours, une copie de copie en... Et que donc, pendant ces trois jours, il fallait que tu la prennes, tout simplement. D'autre part, la poésie Mandelstam a dit cicada, c'est-à-dire la citation est une cigale. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de poésie née de rien. Toute poésie est citation et réminiscence. Et la poésie russe, marquée comme elle l'est par Pouchkine, implique la rime, c'est pour ça. Et on pourra en reparler après, mais c'est, je pense, une des raisons fondamentales qui fait que Brodsky et Haïdi étaient incompatibles.
Lorsque Brodsky lisait ce poème, je ne sais pas si quelqu'un ici a entendu Brodsky dire,
ouais, ouais,
mais c'était extraordinaire la manière dont la voix se levait vers la fin du vers.
Oui, absolument.
Et on, pour accentuer la rime, c'est comme une série de vagues, quoi. Ce qu'on fait difficilement en anglais.
Oui, et personne en France ne peut faire ça. Je vous lis. Voyant perdue ma route droiturière, me radiner, je l'or au Luxembourg, pour voir les mines pétrifiées et fières des lettres de la France, avec les bourgeois et les joises gros derrière. Un flic bleuit sur la pelouse, lourd de tradition, l'enfance hurle et court, de l'aige russe, tête sur la pierre. Et toi, Marie, ça va, sans you. Cernée par tes copines de cailloux, tu trônes chez les capétiens imberbes, muette, un moignon faisant piou-piou sur ta coiffette, déjeunant sur l'herbe avec Pan-Panthéon, métrique acerbe. C'est-à-dire, là, il y a un truc que j'ai inventé absolument, c'est métrique acerbe. Et je me dis, je l'ai inventé délibérément pour la rime. Mais ce n'est pas une coquille. Ce n'est pas une cheville, je veux dire. Tout est construit sur ça, pour moi. C'est la métrique qui dicte. C'est une cheville pour montrer comment ça marche. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voyant perdu ma route droiturière, c'est une citation de la traduction de Dante par Pésard dans la Pléiade. Et à partir de là, la route droiturière implique la rime sur derrière, naturellement. C'est obligatoire. Et en russe, il y avait un truc très bizarre, c'est un vzat vpiryot, un espèce de rejet qui veut dire par là, par ici, enfin, dans tous les sens. Sauf que vzat, en russe, est absolument obscène quand c'est dit tout seul. C'est vraiment pas poli. Et donc, quand tu coupes le mot, la formule vzat vpiryot, qui est absolument anodine, et que tu mets la rime sur vzat, ça fait un effet de parodie, comment vous dire, à la fois vulgaire et tragique. D'où ma traduction.
En fait, c'est le plaisir de faire cette traduction-là, c'est justement de pouvoir jouer voilà. À tout cela, parce que voilà. c'est un jeu permanent à tous les niveaux. On est obligé de laisser tomber quelque chose, mais on invente autre chose pour à la place.
Comme bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est comme ça. C'est à partir, en gros, chacune de nos traductions, et c'est ça qui est magnifique dans ce livre, pour moi, c'est que chacune de nos traductions s'explique mutuellement, et chacune est une variation sur un thème. En prenant pour base la forme du sonnet. C'est ça qui fait que... Et ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai... Parce que vraiment, quand moi j'ai traduit ça, je dis, en 3 jours. Parce que j'étais... comment vous dire...
Inspiré.
Non, content, quoi. Très content. Ouais. Parce que c'est... Enfin, voilà. Et quand j'ai découvert la traduction de Kita, je me suis dit, mais attends, mais c'est justement ça. Et parce que en France, on ne fait pas ça. On est beaucoup plus sérieux. Et du coup, bon, on passe pour des gens pas sérieux. Mais bon. Mais donc voilà.
Oui, on pourrait, si, on ne sait pas s'il y a des questions, on peut lire encore
le début.
Oui, mais là, je vais dire que, écoutez bien ce que va lire André, parce que la concentration de K au deuxième vers est quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on trouve également chez Brodsky, mais vous allez plus loin que Brodsky.
Tandis
que moi, je vais beaucoup moins loin que Brodsky à ce moment-là.
On va expliquer. Donc, le début, je vous le lis en russe, et après, si vous voulez bien, je vous fais un mot à mot. Et après, j'explique le mot à mot, et puis après, on lit nos traductions. Hein? Ça va, on a le temps? Ouais, ça va. Мои шотландцы все-таки скоты. Они коммасы там так. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады? И люксембургский, в частности. Сюды забрел я как-то после ресторана взглянуть глазами старого барана на новые ворота и пруды. Где встретил вас. И в силу этой встречи, и так как все былое ожило в отжившем сердце, в старое жерло вложив заряд классической картечи, я трачу, что осталось русской речи на ваш анфас и матовые плечи. Donc je vous fais le mot à mot. Marie, Shetland, c'est все-таки скоты. Marie, les Écossais sont quand même des fumiers. Sauf que elle était reine des Scots. Les Scots. Et en russe, скотина, c'est un fumier. Donc, ils disent tout simplement, c'est vrai que les Écossais sont des Écossais. Hein, bon. Marie, Chagrin, c'est sûr que ce qu'il va traduire ça. Et Peter, il l'a fait.
Mary, I call them pigs, not picts, those Scots.
C'est quand même génial. Moi, j'ai dû traduire les ménages, pas possible. Hein? Bon. В каком колене клетчатого клана, littéralement, dans quelle génération, mais littéralement genou, hein, mais c'est au sens biblique du terme, dans quelle génération de clan à carreaux, предвиделось, a-t-il été prévu que двинешься с экрана, que tu sortirais de l'écran, я же вижу, как статуя сады, et que tu animerais comme une statue les jardins. En russe, bon, ça c'est la première strophe, sauf qu'en russe, la rime, c'est « bi ». Et il existe toute une littérature poétique sur le côté non poétique de ce son. « Bi ». Par exemple, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu dis « bi ». Mayakovsky a fait un poème pour dire qu'il ne fallait utiliser que ce son-là. Donc, ça parle du jardin, mais ça ne parle pas du tout du jardin. Ça parle du côté aberrant de la sonorité russe mise au service de Marie, reine d'Écosse. Il Luxembourg, Skivchasnati, est celui du Luxembourg en particulier. Essaye de mettre dans un sonnet en particulier. Hein? Mais bon. Soudri, Zabriol, Soudri, ça veut dire ici. Je me suis mis, Zabriol, je suis passé par hasard. Mais sauf qu'en russe, on ne dit pas soudri, on dit souda. Soudri, c'est très vulgaire, mais sauf que ça rime en du. Soudri, c'est un langage de Chartier. Soudri, c'est ici que je me suis ramené, un jour, après un restaurant, pour regarder avec les yeux d'un vieux bélier les nouveaux portails et les étangs. Где встретил вас? Какой то вьюв. Старый баран, это вьюв кон. Ça, en russe, on dit vieux bélier. Mais bon, il y a tout le truc sur l'ordre de la toison d'or et tout ce que vous voulez, si vous voulez.
Oui, il y a beaucoup de béliers plus tard.
Oui, et après, il y a plein de béliers. d'où surcoupe la laine. Gdzie wstrzecie was? Où je vous rencontrerai. Et ça, c'est une citation de Pouchkine. Où je vous rencontrerai. Pas assez simple. Il wstrzecie wstrzecie et vu, et en raison de cette rencontre, et так как все былое ожило в отжившем тесте, et comme tout le passé s'est ranimé dans un cœur fané, autre citation du romantisme, старое ожило вложив заряд классической потечи, mettant dans un vieux fût tout ce qui me reste de cartouche, comment on dit, de mitraille, mettant dans un vieux fût de canon ou de fusil tout ce qui me reste de mitraille classique. Je dépense ce qui me reste de langue russe pour votre face et pour vos épaules mates. Là, c'est le mot à mot. Ça va ? En anglais.
En anglais, oui. C'est anglais, c'est pas russe. Mary, I call them pigs, not pits, those Scots. What generation of what clan in Tartan could have foreseen you'd step down from the screen, a statue, and bring life to city gardens? The Luxembourg, to be precise. I came here to digest a parish lunch and stare with the dull eyes of a decrepit ram at the new gates and into ponds. And here I met Your Highness, and to mark that meeting, and since all the dead past now lives anew in my cold heart, by way of greeting, I'll stuff the old gun full of classic grape shot, squandering what remains of Russian speech on your pale shoulders and your paler nape. Brodsky, le seul changement que Brodsky a fait là, j'avais écrit face à la fin, qui est une traduction plus littérale. Il a voulu nape pour la rime. Pour moi, face, ça va, mais voilà.
Lescaut, Marie, sont rats, puisque radins. Quel macaloum qu'il dé d'un cœur clanique. Il dit que star cinématographique, tu renaîtrais statue dans le jardin du Luxembourg, où je désire soudain de digérer tout seul l'hommage orphique payé à ma caboche de bourrique, car Colifème ne crie pas putain. C'est la statue du Luxembourg, la fontaine Médicis. Que vis-je, vous, et vision divine, vous qui ressuscitâtes le passé en l'âme éteinte, je vous ai tressé ce qui me reste d'une joie pouchkine, et mes sornettes rustres, bien mesquines, bruissent pour votre buste et taille fine. Donc voilà. Et naturellement, les sornettes Pouchkine, bon, c'est un adjectif, mais Anna Akhmatova avait dans son célèbre poème «Без героя», le poème sans héros, elle avait fait un vers qui m'avait bouleversé. Elle parlait de la ville de Pétersbourg comme «Достоевский и бесноватый». Littéralement, «Достоевский est possédé». «Достоевский» est un adjectif. Et donc voilà, j'ai fait une citation de cette citation, que personne ne peut comprendre naturellement, parce que le poème n'est pas traduit en français.
Ouais. On pourrait aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, des questions à poser, des remarques. S'il vous plaît, quand même.
Pourquoi il choisit la forme du sonnet ?
Parce que le sonnet...
Pourquoi ? Brodsky l'a choisi. Oui. Ben, je crois que vous le direz mieux que moi, mais le sonnet est vraiment la forme classique de l'Europe de l'Ouest. Enfin, c'est toute la culture, pas classique dans le sens du vieux monde, mais de la Renaissance et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui domine non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Europe sur une période de deux, trois siècles, quelque chose comme ça, peut-être quatre siècles.
Oui, jusqu'à
maintenant. Même maintenant.
Oui, c'est-à-dire que le sonnet, c'est la mémoire de l'Europe. L'Europe, le sonnet commence en Italie au XIIIe siècle. Les premiers sonnets sont la génération d'avant Dante. Les sonnets de la vie nouvelle sont fondamentaux. C'est Pétrarque. À partir de Pétrarque, c'est toute la Renaissance. La Renaissance se définit par le sonnet. Et c'est un sonnet qui existe dans toutes les littératures européennes de l'époque. Je pense dans toutes. Quelle même littérature.
Mais en Russie, c'est une forme rare.
Rare.
Absolument rare. Donc ça marque, quoi, de faire des sonnets.
Les premiers à avoir écrit réellement des sonnets, c'est un ami de Pouchkine, Deltek et Pouchkine, qui a écrit, si je me souviens bien, 3 sonnets.
Pouchkine a même fait un sonnet sur le sonnet.
Sur le sonnet, oui, qui est une traduction de Wordsworth.
Oui. Scorn not the sonnet's critic, oui. You have frowned.
Mais oui, et la traduction de Wordsworth, est, peut-être on pourra. Enfin, il ne l'a pas lu d'abord en anglais. Il l'a lu parce que Sainte-Beuve, dans son recueil, la vie-œuvre de Joseph Delorme, a traduit le sonnet de Wordsworth. Et c'était le seul cas de traduction réelle. En respectant la forme, le seul cas de toute l'histoire du romantisme, si on excepte les chansons du Faust de Goethe, traduites en chansons par Nerval. Et le texte des répliques, Nerval l'a traduit en prose. Il a traduit en vers que les chansons. Mais c'est pas pour rien. Et le seul poète qui traduit Wordsworth, en respectant le sonnet, en faisant le sonnet français, pas en gardant le sonnet anglais, c'est Sainte-Beuve. Pouchkine découvre Joseph Delorme en 1829, écrit un article dithyrambique sur Joseph Delorme, cite Joseph Delorme dans ses propres poèmes lyriques, et le sonnet devient une forme russe. Et du coup, Wordsworth devient un poète russe. Parce que Pouchkine va chercher Wordsworth. Dire en anglais. Et pour Brodsky, qui est formé, qui connaît Pouchkine naturellement par cœur, mais qui est formé à la littérature anglaise, et pas du tout à la littérature française, il arrive en Europe chez Wordsworth, en citant Wordsworth. Du coup, le jeu, le ça. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France, c'est le rôle de la mémoire dans la poésie. Le rôle de la citation. Il n'existe pas un mot employé qu'on n'a pas dit avant. Qui ne soit pas. En Russie, c'était cette forme, cette chose-là était fondamentale pour une raison très simple. C'est que à partir de 1917, on était en train de construire un monde fait pour que les gens ne puissent pas avoir de mémoire. Un monde non humain. Et les formes de la poésie classique, et donc Pouchkine, étaient les seules formes humaines dans un monde non humain. De là, l'importance de l'idée de mémoire dans la poésie.
Je dirais même qu'il ne peut pas y avoir de sonnet innocent. Le sonnet porte toujours avec lui tout un bagage important qu'on ne peut pas ignorer. Il serait impossible, je crois, de commencer à faire un sonnet comme si personne n'avait jamais écrit de sonnet avant.
Voilà. Et Brodsky se situe à la limite de ça. Brodsky se situe dans la poésie classique, mais dans une poésie classique en ruine. Dans une poésie classique en quelque sorte inutile, dans un monde autre.
Il a écrit un poème, un petit poème que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Presque une élégie ». C'est exactement ça. Sur le bord de quelque chose qu'il ne peut pas faire exactement, qu'il ne veut pas faire.
Et c'est en ça que Heidi a été absolument inouïe. c'est qu'il a rompu, il n'a pas rompu réellement avec ça, parce que chez Heidi aussi, on retrouve la forme du jambe, d'une façon.
Le rythme,
bien sûr. Et l'hexamètre, encore, parce qu'il n'a jamais écrit un hexamètre, mais Heidi a cassé une chose fondamentale qui est le récit. C'est-à-dire qu'on ne peut, il n'y a pas de récit suivi dans un poème de il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'histoire dans un poème d'Heidi. Dans les sonnets qu'on vous a lus, il y a une anecdote. L'anecdote est ridicule, idiote, elle est là pour ça. Mais il y a un récit. Je me suis retrouvé un jour au jardin du Luxembourg, et en russe, et dans un autre sonnet, il dit « Chuk padobne phrase », dit Brodsky, c'est-à-dire le chic de cette phrase.
Ça fait bien Paris.
Oui. Je me retrouve à Paris.
C'est à ce moment-là qu'il emploie cette expression « eine kleine Nachtmusik ». On n'a pas, il n'y a pas de problème pour traduire ça.
Voilà. Mais c'est ça. Il arrive dans la littérature anglaise, dans le monde occidental, comme un Moujik, comme un Russe, une kleine Nacht. Et il y a tout ça, c'est-à-dire tout ce côté comique, parodique, et puis avec une autre chose fondamentale qui est la droiture. Je dirais l'orgueil. Pas la fierté. Il y a une attitude comme ça, quasiment un.
Qu'est-ce qu'on entend par Moujik ?
Moujik, c'est paysan.
La brute, quoi, ce que je traduis par rustre. Mais la petite musique de nuit devient pour lui le petit Moujik de nuit. La petite musique de nuit, c'est Mozart. Le petit Moujik de nuit. Donc voilà, c'est le petit Moujik de service, c'est le russe de service. Que Brodsky, rôle que Brodsky a toujours refusé de jouer. Brodsky a toujours refusé d'être un dissident, d'être. Donc il a été ulcéré qu'on publie, les minutes de son procès. Il considérait que c'était scandaleux de faire ça, parce que c'était strictement biographique, ça ne regardait personne.
Il y a en même temps une identification de Mary Stuart avec la femme aimée de Brodsky, et avec Brodsky lui-même, qui se voit comme quelqu'un qui a été exécuté, si on veut, enfin qui a été décapité. Il y a tout un sonnet où il parle de l'horizon comme une ligne qui est comme une arche qui coupe. Enfin, cette ligne de l'horizon de celui qui est exilé, c'est quelqu'un qui est coupé de tout.
Et Brodsky ne se plaint jamais. Il ne dit pas « Ah, c'est terrible l'exil » ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de poésie de l'exil chez Brodsky. C'est pas ça. C'est un fait, point. Donc voilà. Bref, lisez ça, sans blague, parce que c'est vraiment un truc grandiose.
J'avais une question, parce que dans un poème, je ne sais plus lequel, il y a une traduction d'un lieu de Paris. C'était pas la traduction de Peter Fonds, c'était
la
traduction.
La Cour Carrée, peut-être.
La Cour Carrée est devenue, ouais, sans blague.
La place des Vosges qui devient la Cour Carrée.
Oui, voilà. On m'a beaucoup reproché cette chose-là. Je le revendique. Brodsky dit le boulevard Raspail. Hein? Mais Non, mais bien sûr, mais c'est pas ça la question. La question n'est pas le lieu. La question, c'est ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant, c'est Paris n'izminился. Ça veut dire Paris n'a pas changé. Place des Vosges. Как это по-прежнему квадратно? Je te dirais, et comme avant, carré. La place des Vosges est, sans blague, comme avant, carré. Elle n'a pas changé depuis que je suis revenu. Hein? Mais quand tu dis en français, Paris ne change pas. Paris n'a pas changé. Il faut vraiment être couillon pour ne pas voir Baudelaire. Il faut le vouloir, ne pas le voir. Paris n'izminil, ça c'est une citation grosse comme une maison d'un poème que tout le monde connaît par cœur. On est censé le faire. Et si tu ne le sais pas, tu te tais parce que c'est pas poli. Donc voilà. À partir de là, ce qui compte, c'était la citation de Baudelaire. Et que ce soit la place des Vosges ou au boulevard Raspail ou au boulevard Saint-Germain, mais on s'en fout, mais complètement. Pour moi. Ce qui compte, c'est qu'une formule géométrique est restée la même. C'est-à-dire que les lois de l'éternité ne changent pas. Et que ce qui est carré ne sera pas triangulaire.
Donc,
voilà.
Tout à fait d'accord, oui. Moi, je n'ai pas eu ce problème, enfin, parce qu'en français, en anglais, personne ne reconnaît la citation de Baudelaire.
Oui. Mais c'est un truc. Et du coup, les signes sont rentrés dans Baudelaire, parce que c'est comment dire, j'ai signé la citation au cas où tu ne l'aurais pas vue. Les signes, c'est la traduction du signe de Baudelaire. Andromaque, je pense à vous. Le petit fleuve.
Là, vous avez vraiment souligné.
J'ai un peu souligné. Alors, c'est un truc. C'est un truc que je revendique d'une façon. Comment vous dire mais ça, sérieusement. Je suis un élève de Brodsky, et Brodsky lui-même était un élève des formalistes. Ce propre du formalisme russe, c'est de mettre en évidence le procédé. C'est-à-dire de considérer que, par l'analyse du procédé en tant que tel, tu arrives à l'œuvre. Bon. Par conséquent, j'ai toujours tendance à surtraduire ce que je ne peux pas traduire. Je fais ça.
Pour confirmer ce que vous venez de dire, on pourrait bien terminer en lisant le dernier
sonnet
qui justement dit exactement ce que vous venez de dire, je crois.
Alors, attends.
Le dernier sonnet, le 20e donc.
Первом касте неправда, что мятежно. Я пел по встречу в некоем саду с той, кто меня в 48-м году с экрана обучала чувствам нежным. Предоставляю вашему суду А. Был ли он учеником прилежным? Б. Новую для русского среду. С. Слабость по окончаниям, как слабость к окончаниям подежным. В Непале есть столица Катманду. Случайно, являясь неизбежным, приносишь пользу всякому труду. Ведя ту жизнь, которую веду, я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду.
On va pas expliquer Катманду, je crois, on laisse. Bon. With simple pen, rebellious, not true, I've sung this meeting under foreign eaves with her who taught me from the screen a few facts of the heart on 48 cold eaves. Now judge ye of all races and beliefs, A, if he learned his lessons, one or two, B, the new setting where a Russian lives, C, moments of grammatical voodoo. Nepal's far capital is Kathmandu. Being absolute, the arbitrary gives a helping hand to everything we do. Leading the life I lead, I'm grateful to the sheaf of previously snow-white leaves of paper rolled for simply blowing through.
Ma plume simple, pas du tout mutine, chantait mes retrouvailles en un doux jardin avec la belle dont j'eus tout ou presque en 48 des larmes fines d'amour sur grand écran. Que pensez-vous, A, de la tradition de mes tartines, B, de mes tours aux muses qui me jouent, C, de mes rimes quelque peu badines. 100 balles du Népal à Katmandou. Le hasardeux, fatalité divine, surgit utilement sans rendez-vous. Menant ma vie louée de petits fous, je remercie ces feuilles anodines qui trébuchantes sonnent pour des clous. Voilà. Merci à vous. Bah, donc voilà, comme tu dirais l'autre. On peut même vous signer le bouquin à deux, ce qui fera sans blague un collector. Hein. Ça veut dire que vous devriez signer le bouquin. Hein. Ouais. C'est combien? C'est 18, mais sans blague, ça vaut largement 36. Ben merci beaucoup.
Merci.
Vous pouvez passer le livre et aller à la tête.
Tu veux un livre?
Oui, bien sûr, oui, vous avez un...